Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. Nous allons consacrer cette séquence à un singulier personnage, curé, maire de Compreignac, évêque de Limoges et député de la Montagne, Léonard Gay de Vernon.
La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Voici 225 ans, en février 1791, le curé de Compreignac est élu évêque de Limoges. Rien d'extraordinaire, me direz-vous, mais ce curé de Compreignac, un an avant, en février 1790, avait été élu maire de Compreignac. Et 8 mois après, en septembre 1791, il fut élu député et siégera parmi les Montagnards à côté de Robespierre. Il votera d'ailleurs la mort du roi. Ce fameux curé, maire, évêque, député Montagnard, s'appelle Léonard Honoré Gay de Vernon. C'est l'histoire de ce personnage particulièrement original que nous allons essayer de vous conter. Nous le ferons grâce au texte du docteur Jouot, Mœurs limousines au XVIIIe siècle, Louis Pérouas et Paul Dolander, La Révolution française dont le Limousin est la marche, Antoine Artaud, Gay de Vernon, Louis Peignot, un extrait des Vallées de Georges Sand aux collines de Jean Giraudoux, et Simone Joran, l'évêque robespierriste de Limoges qui vota la mort de Louis XVI. Léonard Honoré Gay de Vernon est né le 6 décembre 1748 à Saint-Léonard en Haute-Vienne. Sa famille est alors de noblesse récente. Son père, Charles-Antoine-Joseph Gay de Vernon, écuyer, avait épousé Valérie Fargeot de Montesaigne. Il est le second de 6 enfants, tous élevés très très religieusement. D'ailleurs, 3 garçons vont devenir prêtres. Les 2 filles, elles, entreront au couvent. Un seul garçon échappera à la prêtrise, Simon François, qui deviendra général et commandant en second de l'école polytechnique sous l'Empire. Léonard fut donc admis au séminaire de Limoges, où son intérêt pour les idées philosophiques du siècle commence à se manifester. Dès le séminaire, il bénéficie, de même que toute sa famille, de la bienveillante protection de son évêque, M. Duplessis d'Argentré. D'ailleurs, Léonard ne manquera pas de faire part de sa vive gratitude à l'égard de son évêque. Il sera nommé prêtre de la paroisse de Compreignac. Un de ses frères sera à La Chapelle, près de Saint-Léonard, et l'autre à La Porcherie, dans le sud du département de la Haute-Vienne. Dès 1788, Léonard Gay de Vernon fait part de sa rébellion. Lors d'une réunion, il avait publiquement osé exprimer ses opinions libérales, on pourrait même dire anti-religieuse. La raison seule doit être notre guide souverain, avait-il déclaré.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
C'est en mai 1789, à l'occasion de l'Assemblée générale du clergé, réunie pour élire ses députés aux États généraux, que Gay de Vernon commença sa carrière politique. Il a alors 41 ans, et avec l'aide de ses 2 frères, il décide de s'opposer à l'élection de son évêque, M. Duplessis d'Argentré. Voici la relation de cette assemblée qui se tenait au Feuillant et non aux Jacobins comme prévu, que l'on peut lire dans les annales manuscrites du grand séminaire de Limoges. Ils cabalèrent tant qu'ils purent, ils, c'est Gay Vernon et ses 2 frères, Dans cette séance orageuse pour se faire élire, ils se déchaînèrent contre la prélature et se montrèrent d'autant plus coupables d'ingratitude envers l'évêque qui les avait tous placés ou fait placer. Comme ils s'expliquèrent ouvertement là-dessus, ils se couvrirent du plus grand ridicule. Aussi ne réussirent-ils qu'à révolter la majeure partie des esprits contre eux, et après avoir voulu être de tout, ils ne furent de rien. L'évêque du Plessis d'Argentré fut élu, et avec lui l'abbé Guingamp de Saint-Mathieu, curé de Saint-Pierre-du-Quéroy à Limoges. Le clan Guévernon a donc échoué. Léonard paraît désormais suspect aux yeux du haut clergé. Cependant, il s'est mis en évidence aux yeux des petits curés de campagne chez qui il va gagner en popularité. Après cet échec relatif, car donc il a acquis une certaine popularité, il revient dans sa cure de Compregnac. Et le 11 février 1790, il est élu maire de Compregnac. La carrière politique de Léonard Gay de Vernon, commencée un an plus tôt, se confirme. Quelle est donc cette commune de Compregnac dont Gay de Vernon est devenu le curé?
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Le docteur Jouot, dans Mœurs limousines à la période révolutionnaire, écrit: le registre des délibérations du conseil général de la commune de Compregnac nous a été conservé. J'y ai trouvé des renseignements qui m'ont paru assez intéressants. En 1790, la commune de Compregnac comptait 2024 habitants, dont 449 hommes mariés, 466 femmes mariées, 568 garçons et 541 filles groupées en 358 feux. 24 maisons étaient à vendre, 42 citoyens ne payaient aucune taxe. Un chef de famille représentant 5 individus n'était taxé qu'à une seule journée de travail. On comptait 12 vieillards hors d'état de travailler, 19 infirmes, 21 enfants de pauvres trop jeunes ou incapables de gagner leur vie. Au total, on estimait à 40 le nombre des individus ayant besoin d'assistance, à 40 également le nombre de pauvres malades par année commune et à 4 le nombre de mendiants vagabonds. La proportion de 4% environ de citoyens nécessiteux était beaucoup plus faible à Compregnac que dans les autres communes du canton, où elles atteignaient par exemple 8% à Saint-Sylvestre. Les causes de la mendicité sont les suivantes: le grand nombre d'enfants, la stérilité du terrain, la trop forte taxe de l'impôt, 3 années consécutives de stérilité, les frais de justice, les frais exorbitants de la solidarité et l'établissement des commissaires sur les fruits. Le nombre considérable de pauvres provenait de la suppression de l'abbaye de Gramont d'une part et de l'état de langueur de la filature du coton établie autrefois par l'évêque de Limoges et par le curé. Compte tenu de la pauvreté générale qui régnait en Limousin, la commune de Compregnac apparaissait plutôt comme florissante. Ses citoyens espéraient bien toutefois retirer des avantages des nouvelles institutions révolutionnaires. Personne ne les connaissait mieux que leur curé. En suivant un protocole fort régulier, ils en firent leur maire le 11 février 1790.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Élu maire, Gay Vernon va opérer un amalgame parfait de la puissance morale du prêtre et de l'autorité légale du maire, comme en témoigne avec ironie l'un de ses administrés. On ne peut fixer exactement l'envers et l'endroit du tablier de ce maître Jacques, tant il avait de dextérité pour se présenter sous l'une ou l'autre face. Ou encore, comme le révèlent certains de ses actes administratifs, signés Gay, maire et curé de Compregnac. Parmi les décisions du maire, on trouvera, par exemple, un langage plus moderne, où on privilégie la nation et le roi plutôt que Dieu et le roi. Le catéchisme, rendu obligatoire pour tous les enfants. La décision municipale fut prise le 21 novembre 1790. Premièrement, tous les enfants qui n'auront pas 15 ans et qui n'auront été admis que deux fois à la table sacrée seront tenus d'assister régulièrement aux instructions annoncées au prône par monsieur le curé. Deuxièmement, ceux qui manqueront deux fois de suite sans raison seront notés et obligés le dimanche suivant de paraître à la municipalité. Troisièmement, au cas où ils n'y paraissent pas, les pères seront mandés à la municipalité afin d'y être avisés et concertés avec eux sur les moyens de douceur ou de rigueur qu'il faudra employer pour rendre assidus leurs enfants. Le maire décide aussi la fermeture autoritaire des cabarets pendant l'office dominical afin que tous les paroissiens assistent à la messe. Le docteur Jouot nous explique. Ayant observé que ces paroissiens désertaient la grand-messe dominicale pour aller boire au cabaret, il fit faire à ses officiers municipaux une tournée d'inspection. Les débits de boissons étaient ouverts pendant la messe malgré les ordonnances royales. Les consommateurs y vidaient chopine. Procès verbal leur fut dressé dès mai 1790. La commune de Compreignac va également décider de la création d'une espèce d'allocation chômage confirmée sous forme de grains remis aux pères de famille sans travail. Décider également de la confiscation au profit des pauvres des offrandes faites à d'autres membres du clergé sur le territoire de la commune et décider de la mise en place de la contribution patriotique obligatoire. Il va également agir localement pour la création d'une garde nationale qui doit être présente aux cérémonies civiles et religieuses. Guy Vernon, soutenu par la majorité de ses administrés, s'attire néanmoins par ses décisions autoritaires, brutales, voire révolutionnaires, de fortes inimitiés parmi les notables et une partie du clergé.
Comme un prophète, il prédit cela en chantant ma chansonnette. Avec plaisir, on dira, ah ça ira, ça ira, ça ira, ça ira malgré les mutins, tout réussira. Ah ça ira, ça ira, ça ira, suivant la maxime de l'évangile. Ah ça ira, ça ira, ça ira, du législateur tout s'accomplira. Celui qui s'élève, on l'abaissera. Celui qui s'abaisse, on l'élèvera.
Guy de Vernon va devancer la constitution civile du clergé. Il offre lui-même une partie de ses revenus, mais en même temps, il taxe les cérémonies. Le 14 juillet 1790, en qualité de curé, Guy de Vernon fit un discours sur les grands principes de l'Assemblée constituante. Dès octobre 1790, il s'empressa d'effacer dans le courant d'une semaine toutes les figures et armes peintes dans l'église de Compreignac, ces monuments ne faisant que rappeler les siècles de barbarie et d'ignorance où les droits de l'homme étaient méprisés. Le 16 janvier 1791, Guy de Vernon et son vicaire Magie prêtent le serment à la Constitution devant le Conseil municipal. Voici un extrait de son discours qu'il fera imprimer et distribuer à 1000 exemplaires. Le peuple connaît ses droits. De vaines déclarations ne le séduiront pas. Si, par des insinuations perfides ou de sourdes manœuvres, on parvient encore à l'égarer, ses fidèles pasteurs, en l'éclairant, le feraient bien vite rentrer dans le devoir, car ne croyez pas qu'un grand nombre de curés refusent de prêter le serment civique. Et il ajoute, « Les guerres de religion qui ont désolé l'Europe, tant de crimes commis au nom de Dieu, tant de prétentions soutenues avec fureur, une opposition constante au progrès de la raison et de la civilisation, une foule d'anathèmes qui ont paralysé l'esprit humain et flétri les génies qui osaient penser, nous montrent qu'il faut réduire le clergé à ce qu'il doit être. Les ministres de la religion ne doivent avoir en cette qualité aucune influence sur le gouvernement. » On voit donc, dans ce discours, que Guy de Vernon est tout à fait dans l'esprit des Lumières et dans la modernité des idées libérales. La religion et ses ministres ne doivent pas décider de ce qui est le bien et le mal pour le peuple, c'est le peuple qui doit décider. Léonard Gay de Vernon prépare alors sa candidature au poste d'évêque. Il se fait nommer associé correspondant de la Société des Amis de la Constitution, qui est présidée par son frère Jean-Baptiste, l'archiprêtre de la Porcherie. Il rédige alors une adresse de la société aux habitants des campagnes, leur conseillant le calme, de payer les impôts et de fermer l'oreille aux ennemis des patriotes.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
C'est le 14 février 1791 que se tient l'assemblée du clergé pour l'élection de l'évêque. Son civisme, la hardiesse de sa propagande ayant mis Gay de Vernon au premier plan de la vie politique de la Haute-Vienne, il est candidat au sacre. Le premier tour de scrutin ne donne aucun résultat. Au deuxième tour, les voix des électeurs se répartissent entre Gay de Vernon et l'abbé Goutte. Au troisième tour, Gay de Vernon fut élu par 107 voix sur 215 votants et 10 bulletins nuls. C'était donc le mardi 14 février, jour de carnaval, d'où le surnom d'évêque carnaval que lui donneront ses ennemis. Il démissionnera de son poste de maire de Compreignac, où d'ailleurs il sera fortement regretté par la majorité de ses paroissiens citoyens, sauf de son ancien vicaire Magie devenu curé de Razé, avec qui il s'était fâché et qui donnera publiquement libre cours à ses rancunes. Il fait doter Compreignac d'un nouveau curé, qui emploiera les mêmes techniques de gouvernement que lui. Ce nouveau vicaire régent, Jean-Baptiste Martilly, un père jacobin, jureur dévoué à la Constitution, interdira par exemple que l'on fît les récoltes de blé ou les foins les dimanches ou jours de fête. Gay de Vernon sera sacré évêque à Paris par Talleyrand, et le 25 mars 1791, notre nouvel évêque entre à Limoges. Il est particulièrement bien accueilli par le petit peuple et les nombreux représentants de la Société des Amis de la Constitution. Mais il compte aussi beaucoup d'ennemis parmi le clergé de la ville. C'est ainsi qu'au moment où la garde nationale passait devant la communauté de la Visitation sur la route de Paris, les religieuses se permirent pieusement de lâcher aux jambes de la garde nationale les eaux puantes de leurs égouts, conservées sans doute à dessein depuis quelques jours. Évêque de Limoges, Gay de Vernon continuera d'afficher fortement ses idées révolutionnaires, s'appuyant sur la raison, la justice et l'intérêt du peuple. Il décide de réorganiser son évêché et bien sûr, il s'attire vite l'opposition du clergé réfractaire, c'est-à-dire hostile à la Révolution, mais encore l'opposition de l'ancien évêque Duplessis d'Argentré qui possède encore une grande influence auprès du clergé. Certes, Gay de Vernon est habile, il s'est constitué, organisé son clan, ses clans, il s'est intrigué, mais la période pour lui est difficile à gérer. Et dès lors, bien qu'il reste évêque en titre jusqu'en 1793, il décide de se lancer dans une nouvelle aventure, celle de la députation.
Antoine est avait résolu.
Antoine est avait résolu.
De nous faire tomber sur le cul.
De nous faire tomber sur le cul.
Mais son coup a manqué, elle a le nez cassé.
Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
La carmagnole que nous entendons pour nous signifier que le député évêque, Gay de Vernon, a voté la mort du roi. En effet, en septembre 1791, Gay de Vernon est élu député de la Haute-Vienne à l'Assemblée législative, et alors sa carrière politique va s'accélérer au niveau national. En septembre 1792, à la Convention, le citoyen évêque siège parmi les montagnards de Robespierre. Il vote donc la mort du roi, comme il votera plus tard l'arrestation des Girondins. Mais dans le même temps, enfin renard, il protégera certains députés girondins de la Haute-Vienne. Par la suite, sous le Directoire, on le retrouvera au Conseil des 500. Il est toujours actif et intrigant, mais bien vite, il sera écarté pour ses opinions jugées sans doute trop républicaines.
Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort.
Meunier,
viens-tu,
le travail
se décide.
Meunier,
viens-tu,
le travail est perdu.
Cette comptine du Meunier Tudor pour introduire l'affaire du meunier Pierre de Glane. C'est sous la députation de Guy de Vernon que se situe l'histoire du meunier de Pontabrié. Nous empruntons le récit à Louis Peignot dans De la vallée de Georges Sand aux collines de Jean Giraud. Suivons, nous dit-il, Pierre de Glane, dit la fleur, et sa carriole chargée de sacs de seigle. Passé le pont du Vincou, après la montée, nous redescendons le long d'un étang bordé de hêtres et de chênes jusqu'à la cour du moulin. Entre deux collines assez rapprochées, la large et forte chaussée barre la vallée. Tout au-dessous d'elle se blottissent le moulin, les granges et les étals. Le petit Vincou sort de l'étang, fait tourner la vieille roue de bois et s'en va toujours en chantant dans les prés vers Compreignac. Arrivé chez lui, son fils lui apprend qu'il a aperçu vers la queue de l'étang quatre ou cinq bons hommes qui, à la tombée de la nuit, semblaient placer des nasses dans l'eau. Le meunier surprendra les braconniers et récupérera des nasses pleines de carpes merveilleuses et remuantes. Les contrebandiers, en s'enfuyant, profèrent des menaces. Un jour viendra où nous nous vengerons. Tu le paieras, la fleur. Une animosité était née, prête à se réveiller à la première occasion. En décembre 1793, la Convention ordonna le dessèchement des étangs pour en ensemencer le sol en grains de mars ou planter en légumes propres à la subsistance de l'homme par les propriétaires, fermiers ou métayers. Le meunier Pierre de Glane va protester, comme il protestera contre la désignation des volontaires nationaux. Le meunier était connu pour son caractère entier, vif, et pour ses imprudences de langage. Dénoncé par les fameux braconniers qui tenaient là leur vengeance, il fut arrêté, transféré à Paris, pour y être jugé. Les municipalités de Saint-Symphorien-sur-Couze, de Touron, de Compreignac s'émurent et envoyèrent des certificats de civisme en sa faveur. Les dénonciateurs affirmèrent qu'ils avaient parlé pour plaisanter. Ils se mirent en route pour Paris afin de modifier leur première déposition. Mais quand ils arrivèrent dans la capitale, leur infortuné voisin avait été jugé et guillotiné la veille. Léonard Guay de Vernon, l'ancien curé-maire de Compreignac, évêque constitutionnel de Limoges, était alors député à la Convention. Et certains lui reprochèrent de n'avoir pas suffisamment défendu le meunier de Glane, alors qu'il était intervenu auprès de l'accusateur public, Fouquier-Tinville, dont il était l'ami, pour obtenir l'acquittement de Pierre Bouteau de Rancon, qui, un soir de boisson, avait critiqué les sociétés populaires. Conscient du danger de la rumeur, Guay de Vernon fit témoigner en sa faveur Jeanne Régeau, la veuve de feu Pierre de Glane. Elle déclare qu'elle n'avait rien dit contre le citoyen Guay de Vernon, député à la Convention nationale, mais au contraire, que celui-ci lui a mandé, après la mort de son mari, que s'il pouvait lui rendre service, qu'il ferait son possible pour cela, et ne s'est point plainte de lui en aucune façon. De la même manière, il obtient le soutien du conseil de la commune de Compreignac. Le directoire, qui voulait éloigner Guay de Vernon de France, le nomma commissaire des relations commerciales à Tripoli, en Syrie. Il remplit ensuite à Rome les fonctions de secrétaire général du consulat de la République française. Forcé de quitter ce poste par un arrêté de Barras, il fut exilé en France. Il se cacha alors dans le département du Doubs. Lors du retour du Parti démocratique au pouvoir, il revint aux affaires et sera nommé régisseur de l'octroi à Poitiers, puis commissaire près de l'administration centrale de la Somme. Après le coup d'état de Brumaire, hostile à l'Empire, il donne sa démission et en 1802, il fonde et dirige, avec le concours de plusieurs savants et littérateurs, une maison d'éducation rue de Sèvres à Paris. En 1816, dès le début de la Restauration, il est à nouveau exilé. Il se retire à Virevolde en Belgique, où il donne des leçons de latin dont le profit était largement consacré à l'assistance de quelques-uns de ses collègues ex-conventionnels réduits à la misère. En 1819, il est autorisé à rentrer en France. Il se retire sur ses terres de Vernon. Il meurt en 1822. Il est enterré, nous dit-on, à Saint-Léonard, sans cérémonie. Merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche que nous avons consacrée à Léonard Gay de Vernon, curé, maire de Compriagnac, évêque et député montagnard. Pour les textes, nous avons utilisé des ouvrages du docteur Jouot, de Louis Pérouas et Paul de Landère, d'Antoine Artaud, de Louis Peignot et de Simone Joran. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel à Michala Pietri, Joé Gagné, Vivaldi, Marina De Martini, Marc Augeret, au groupe Maluzerne et à Franz von Wexeck que nous écoutons en ce moment. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle séquence des petites et grandes histoires de la Basse Marche. À très bientôt donc. Et très bonne semaine à vous tous.
La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.